Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et quelqu'un ce matin dans sa prière a dit merci à Dieu pour la joie qu'il avait dans le cœur. Et c'est vrai que la joie que nous avons ne dépend pas des circonstances. Et c'est Néhémie qui dira que la joie du Seigneur sera notre force. Lorsqu'on veut faire des meringues, on sépare les blancs des jaunes. Seuls les blancs sont utilisés, les jaunes n'entrent pas dans la fabrication des meringues. Par contre, si on veut faire une omelette, on réunit les deux ensemble. Dieu aussi fait des séparations d'un côté et réunit de l'autre. Le titre de ce matin, de la séparation à la réconciliation. Nous allons voir deux points dans ce message. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais le temps me manque pour développer davantage. Je n'ai pas mis tous les versets à l'écran, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a certains. Premier point, Dieu sépare. Deuxième point, Dieu réunit tout simplement. Genèse chapitre 1, versets 6 et 7. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue et les eaux qui sont au-dessus. Et cela fut. On remarque que dans ce passage, la répétition du verbe séparer, qui indique une mise en ordre des choses que Dieu crée. Chaque chose a sa place, avec sa fonction et son rôle propre. Il fera de même avec les animaux, les végétaux et tout ce qui compose l'univers. Un éléphant ne donne pas naissance à des souris et un chêne ne produit pas des oranges. Chaque espèce de végétal produit des fruits de la même espèce et chaque animal engendre des êtres de la même espèce. Après avoir fait ces séparations et avoir mis de l'ordre dans la création, il dit que cela était bon. Cela est voulu de Dieu, et la Bible nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Par cet ordre des choses, Dieu apporte la stabilité et l'équilibre dans le quotidien de tous les êtres vivants et les éléments. Dieu finira par la création de la race humaine, un homme, une femme, différents, avec chacun son rôle propre, mais qui se complète. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es une création de Dieu, voulue de lui et pour laquelle il a un rôle à te faire jouer dans le plan qu'il a conçu pour toi personnellement. Maintenant, un autre texte dans Genèse, chapitre 3, versets 23-24. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu. En conséquence, ils ont été exclus du jardin d'Éden où ils vivaient dans une communion étroite avec le Créateur. Cette rupture a introduit la mort spirituelle et naturelle de l'humanité. Un profond fossé s'est creusé entre Dieu et l'homme. Le péché est entré dans le monde et sépare l'homme de son Créateur. Il faudra attendre la venue du Messie pour rétablir la relation et apporter la réconciliation. Ésaïe l'exprime de cette manière. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Maintenant, avançons un peu plus dans Genèse, au chapitre 25, verset 23. Deux nations se heurtent dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. C'est l'Éternel qui parle à Rebecca, la femme d'Isaac, fils d'Abraham. Elle attend des jumeaux. Jacob et Ésaü donc étaient jumeaux. Et comme on le sait, il y a une forte relation entre les jumeaux. Pourtant, Dieu avait déjà porté son choix sur Jacob. Il fera une séparation dans leur vie pour se créer un peuple qui lui appartienne et par lequel il se révélera aux autres nations. C'est aussi de ce peuple que sortira le Messie. Dieu s'est révélé au monde au travers du peuple juif et le salut nous sera apporté par le Christ qui est issu de ce peuple. Maintenant, un verset dans Nombre, chapitre 16, verset 20. « Séparez-vous de cette assemblée et je la consumerai en un instant. » C'est Dieu qui parle de la révolte de Corée et de ceux qui l'ont suivi dans sa révolte. Dieu appelle le peuple qui obéit à Moïse et à Aaron à se séparer de ceux qui désobéissent et ne leur font pas confiance, qui mettent en doute l'autorité donnée par Dieu à ses serviteurs. C'est la troisième fois que Dieu est sur le point de détruire le peuple. Et Aaron se tiendra entre Dieu et la plaie qui avait commencé parmi le peuple. Il intervient dans sa fonction de grand sacrificateur pour être médiateur entre Dieu et le peuple. De même, Jésus-Christ s'est tenu entre Dieu et nous. Par son sang versé à la croix, il a apaisé la colère divine et nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu es pécheur et que tu n'as pas fait encore la paix avec Dieu, tu demeures sous la colère de Dieu. Jésus, par son sacrifice, a apaisé la colère divine et te fait trouver grâce pour te réconcilier avec Dieu le Père, afin que, par la foi en Christ, tu ne sois pas séparé de lui, mais accepté dans sa présence. Un autre verset dans Jérémie, chapitre 15, verset 19. Si tu t'attaches à moi, je te répondrai, et tu tiendras devant moi si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu seras ma bouche, et ils reviendront à toi. Ils, c'est le peuple. Jérémie est découragé par le peuple qui a abandonné Dieu, et il en veut à Dieu de la situation dans laquelle il se trouve. Il se plaint. Dieu va le réprimander en lui demandant de commencer lui-même par revenir vers Dieu, vers lui, plutôt que de murmurer. Dieu l'appelle à se séparer de ses sentiments qui l'éloignent de lui et le pousse au murmure, pour pouvoir être à nouveau utilisé par Dieu auprès du peuple. C'est dans son cœur que la séparation doit se faire. Et si Dieu réprimande Jérémie, ce n'est pas pour l'anéantir, il était déjà découragé, mais bien plutôt pour le relever et le sortir de son découragement, afin qu'il reprenne sa place comme prophète au sein du peuple. Nous, de même, nous devons examiner notre cœur et laisser le Saint-Esprit nous sonder afin qu'il nous révèle ce qui, dans notre cœur, nous éloigne de lui. Dieu veut faire une séparation entre le bien et le mal qui peuvent habiter nos cœurs. Rappelez-vous les paroles de David dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une prière qu'il adresse à Dieu, conscient de ses manquements et conscient qu'il a besoin d'être éclairé pour savoir où il en est dans sa relation avec Dieu. Maintenant, on va voir un verset dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Le pauvre, c'est Lazare. Alors, je précise, il ne s'agit pas de Lazare, le frère de Marthe et Marie, que Jésus a ressuscité. Dans la parabole du pauvre Lazare et du riche, tous deux ont le même sort, ils meurent. Mais ils n'ont pas la même destination ni la même destinée. Lazare, qui était croyant, un fils d'Abraham, est accueilli auprès de Dieu avec Abraham. Le riche est séparé d'avec Dieu. Au verset 26, le riche supplie Abraham de le rafraîchir car il souffre cruellement dans le lieu où il se trouve. Abraham lui affirme que c'est impossible. Et il lui répond ceci. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici ne puissent le faire. Le riche a joui des plaisirs de la vie en laissant Dieu de côté, alors que le pauvre, malgré sa situation pénible, a fait confiance à Dieu et lui est resté fidèle. Dieu, aujourd'hui encore, nous laisse le temps de faire un choix, celui d'accepter le salut de Jésus-Christ ou de l'ignorer. Les conséquences sont différentes en fonction de notre choix. L'éternité avec Dieu dans un bonheur éternel ou la séparation d'avec Dieu et en proie à un tourment éternel. Rappelons-nous les paroles de Dieu dans Deutéronome. « J'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie afin que tu vives. » C'est la pire séparation que l'on puisse endurer et c'est un avertissement qu'il faut prendre au sérieux. Derrière cet avertissement, on voit l'amour de Dieu qui cherche désespérément, si je puis m'exprimer ainsi, les pécheurs que nous sommes et qui veut qu'aucun ne périsse et qu'il ait la vie éternelle. On va retourner maintenant en Genèse chapitre 13, verset 9. « Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham et Lot se retrouvent tous les deux sur des terres trop petites pour leurs troupeaux. Aussi, Abraham laissera le choix à Lot de s'établir là où il veut. Il prendra ce qui restera des terres environnantes. Abraham a la sagesse de se séparer de son neveu pour éviter les querelles qui avaient lieu entre ses bergers et ceux de Lot. Ce sera une séparation douloureuse, car familiale. Parfois, ces séparations sont nécessaires pour garder la paix. Lot et Abraham se sont séparés en bons termes, bien que cela ne soit pas le désir d'Abraham qui aimait son neveu. Il y a parfois des séparations qui nous sont imposées et qui causent des blessures et des traumatismes. C'est le cas du deuil, du divorce, de l'éloignement de nos bien-aimés pour des raisons professionnelles, un déménagement, des conflits familiaux, parfois aussi on peut être déraciné de sa terre d'origine pour aller dans un autre pays pour du travail. On laisse derrière soi ses bien-aimés. C'est aussi une séparation difficile. On ne choisit pas certaines de ces séparations. Elles surviennent et il nous faut faire avec. Elles se sont imposées à nous et nous avons dû vivre avec et y faire face. Ce sont des situations douloureuses qui nous font souffrir et qui mettent du temps à guérir. J'avais 3 ans quand mes parents ont divorcé. Ma mère a obtenu la garde de 9 enfants. Cependant, comme il n'y avait pas de quoi nous scolariser dans le hameau où nous habitions, mes frères et sœurs et moi-même avons été confiés à des institutions religieuses. Et je me souviens très bien encore aujourd'hui, le jour où ma mère m'a laissée à la pension. Je me souviens de mes larmes, de mon désarroi, de ma frayeur mêlée d'incompréhension. J'ai passé 8 ans séparée de ma mère et d'une partie de ma famille, 2 de mes sœurs étant au foyer avec moi, mais dans des groupes différents. Cela laisse des cicatrices. Peut-être que certains d'entre vous gardent encore des cicatrices de leur traumatisme du passé. Dieu, dans sa grâce, m'en a guéri et je lui en suis reconnaissante. Il y a aussi des séparations dont l'homme est à l'origine. On a séparé l'homme de la femme dans l'égalité. On a séparé les hommes par race. On a séparé les hommes par leur statut social. On a séparé les hommes par leur savoir. On a séparé les hommes par leur richesse et sûrement d'autres critères, car l'homme fait beaucoup de sélections. Dieu, lorsqu'il sépare, ce n'est pas pour quelque chose de mauvais, mais c'est pour quelque chose de bon. Les séparations qu'il a opérées sont pour nous garder du mal et faire de nous un peuple qui lui appartienne. Par cela, Dieu nous met à part et nous appelle à être saints, séparés du monde, par une vie qui lui est agréable et qui le glorifie pour un but bien précis, celui de le connaître et être prêt pour vivre l'éternité avec lui. Matthieu, chapitre 25, versets 32-33. « Et toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui, Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. » Matthieu parle du jugement dernier où, là encore, il y aura une séparation entre ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui l'auront rejeté. Pour le moment, les uns et les autres vivent dans le même monde, mais ils ne font pas partie de ce même monde. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors, à quel monde appartenons-nous? Avons-nous fait notre choix? Sommes-nous réconciliés avec notre Créateur? Si oui, a-t-il la première place dans notre vie? Et sommes-nous prêts à le rencontrer? Ce sont des questions non seulement pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, mais également pour nous, ses enfants. Sommes-nous des chrétiens d'apparence ou des enfants de Dieu qui vivent une vie d'obéissance conduite par l'Esprit Saint dans toute sa volonté? Si Dieu sépare pour les raisons qui ont été évoquées plus haut, il veut réunir également. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Jésus a porté nos péchés qui mettaient une séparation entre Dieu et nous. Cela faisait partie du plan que Dieu avait conçu lorsque Adam et Ève se sont vus interdire l'entrée du jardin d'Éden et séparés de lui. C'est l'entrée dans le lieu saint auquel nous n'avions pas accès. Mais le voile a été déchiré, nous donnant une libre entrée vers Dieu et sa grâce par la foi. Par le sacrifice de Jésus, Dieu a réuni tous les hommes, quels qu'ils soient, en un corps, une famille, c'est l'Église. Là où l'homme avait fait une séparation entre l'homme et la femme dans l'égalité, Dieu a réuni. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et il ajoute que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là où l'homme a séparé les races, nous lisons dans Galates au chapitre 3, verset 24, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, aucune distinction. Vous êtes un en Jésus-Christ et vous êtes à Christ. » Et aussi dans Galates au chapitre 3, verset 14, Paul dit « Car il est notre paix, lui qui des deux, juifs et païens, n'en a fait qu'un, un seul peuple, et qui a renversé le mur de séparation. » Là où les hommes faisaient une séparation à cause des richesses et la pauvreté, Jacques dit « Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le monde pour qu'ils soient riches dans la foi ?» Là où les hommes faisaient une distinction entre les intelligents et les simples, Jésus dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Là où les hommes font une distinction entre les personnes de haute renommée et les personnes non considérées, Pierre dit « en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. » Quand Jésus dit qu'il attirerait toute personne à lui, c'est toute créature, quelle qu'elle soit. Dieu nous a réunis dans un seul peuple, une seule famille, une seule église. Nous formons un corps où tous les membres ont leur place. Et comme les membres du corps sont unis les uns aux autres, les chrétiens sont unis entre eux. Nous sommes unis dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il nous faut veiller à garder cette unité pour ne pas être séparés du corps. Nous nous soutenons les uns les autres, nous nous encourageons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres et nous nous aimons les uns les autres. L'Ecclésiaste l'exprime ainsi dans son livre « Si l'un tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. » Et l'écrivain Jacques de Bourbon-Busset a dit « L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. » Et l'auteur du psaume 133, « Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » En effet, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Une promesse est rattachée à cette affirmation. En gardant une communion vivante avec Dieu, en ayant une vie de prière constante dans la dépendance de Dieu, en faisant partie du corps de Christ pour vivre la communion fraternelle, nous ne serons jamais séparés de Dieu. Et si pour une raison ou pour une autre vous vous êtes éloigné, vous avez délaissé l'assemblée ou la lecture de la parole ou la prière, il y a possibilité pour vous aujourd'hui encore de vous consacrer à nouveau à Dieu et prendre la place que Dieu vous a offerte par son sacrifice. En conclusion, connaître Dieu, l'amour infini, admirable, ineffable et inconditionnel qu'il a pour nous, nous permettra de rester attachés à lui. Rien ne pourra nous séparer de lui. Nous avons tout à gagner avec Dieu et tout à perdre sans lui. Et c'est parce que Jésus a payé le prix fort pour nous permettre de vivre cette relation d'enfant bien-aimé avec notre Père céleste. Avec Dieu, nous avons une espérance solide, une vie transformée et une éternité assurée. Sans lui, tout s'effondre. Que rien ne nous sépare jamais de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Paul l'exprime ainsi dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée. Rien ne nous séparera de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Cheers.